Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Vous écoutez
RMC. RMC, l'Afterlive.
Timothée Mémon.
Bonsoir à tous, il est 20h, on est ensemble jusqu'à 23h dans l'Afterlive pour suivre la rencontre entre Nantes et Lille qui débutera dans une heure. Et puis tout de suite après le match, l'Afterlive sera Samu et deviendra l'After avec Kevin Diaz et Jonathan Macardy. Avant cela donc, on va s'intéresser au match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1. On va rejoindre dans quelques instants Pierre-Yves Leroux, Xavier Grimaud en direct de la Beaujoire. On évoquera aussi la Coupe du Monde qui approche à grands pas, 100 jours tout pile. Non, pas vraiment, puisque le match inaugural a été avancé d'un jour, on est donc à 99 jours de l'événement. Pour m'accompagner ce soir, un homme qui a joué à Nantes, à Bastia, à l'Hellas Vérone, mais qui a aussi, et on ne le rappelle pas assez souvent, été l'entraîneur de Cavaillon. Bonsoir Sébastien Vieux.
Ah, belle entrée. Salut Timothée, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. On va évidemment dérouler cette soirée particulière à ton cœur, toi l'ancien Nantais, pour ce match entre Nantes et Lille. Vous nous appelez au 32-16, vous réagissez sur Direct Studio. L'After Live, c'est parti. On fera également un point tout à l'heure sur les championnats d'Europe de natation. Un Français a encore une chance de qualification. On sera également à 20h30 sur le match de basket entre l'Italie et la France avec Pierre Thévenet. Avant cela, on va rejoindre tout de suite le stade de la Beaujoire. Nous attendent Pierre-Yves Leroux et Xavier Grimaud. Salut messieurs.
Bonjour Timothée, bonjour à tous.
Salut à vous.
Messieurs, est-ce que vous avez les compositions d'équipe?
Eh bien non. On vient même d'avoir un message, parce qu'on met la pression évidemment pour avoir les compos pour vous les annoncer. Elles ne sont pas faites, donc d'ici quelques minutes, voilà ce qu'on nous dit.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en profiter pour mettre la pression sur la Ligue de football professionnel, parce que depuis le début de la saison, toutes les compositions tombent en retard. C'est une heure avant, ils sont suffisamment rigoureux sur certaines choses pour qu'on puisse le leur rappeler à notre tour.
Ce qu'on peut faire, Timothée, c'est on peut faire la compo nous-mêmes de l'équipe, voilà, comme ça.
Bah oui, c'est pas idiot. Alors, ce qu'on sait déjà, c'est que Sissoko ne jouera pas avec Nantes, mais messieurs, en attendant les compositions, je voulais avoir un petit peu une petite carte postale de ce stade de la Beaujoire qui vraisemblablement va être en ébullition aujourd'hui.
En ébullition et puis magnifique parce que la pelouse a été changée. Elle datait de 2001, année évidemment très importante pour le FC Nantes, c'est le dernier titre, 2001. Et à l'époque, on avait dit au club, la pelouse, on vous l'assure, pendant 15 ans. Elle va tenir 15 ans. Finalement, elle a quand même tenu un peu plus de 20 ans. Et elle a été refaite donc à l'intersaison, il y a 13 semaines maintenant, pour m'en être approché. Elle n'est pas très, très dense. Les joueurs ont pu la tester hier. C'est assez sec, un peu particulier encore. C'est assez normal. Elle est arrosée actuellement. Et puis, ça va être en ébullition, effectivement, puisque 30 000 personnes sont annoncés. 376 supporters lillois sont déjà arrivés dans le petit espace qu'il aurait réservé. Et puis, c'est le retour des supporters après une très, très belle saison. Évidemment, 83 jours après le dernier match ici, c'était face à Saint-Etienne. Une rencontre qui s'était soldée par un match nul, un partout. Il y a un record d'abonnement. Déjà, on le sait, on a battu un record qui datait d'il y a 15 ans au niveau des abonnés avec une année européenne. Donc, forcément beaucoup d'intérêt dans cette saison et puis quelques inquiétudes Timothée, mais on aura l'occasion d'en reparler, ça c'est plus au niveau de l'effectif.
Ouais, effectivement, on en parlera dans un instant. Tiens, je vous laisse écouter Antoine Comboire, c'était en conférence de presse sur cette Beaujoire et ce nombre d'abonnés record cette saison.
On est super content de retrouver la Beaujoire, super content de retrouver notre public. Ce qui serait beau, c'est de sortir donc de cette confrontation avec une victoire pour qu'enfin on puisse lancer la saison. Si on veut faire un bon parcours, ça passe par des bonnes performances à domicile. Tu gagnes, tu as de la confiance, tu as des points, un bon classement, mais surtout, tu fais plaisir à tes supporters. Il y a une grosse attente, donc ça va être un supplément de motivation pour les joueurs, quoi. Supplément d'âme pour les joueurs quand ils vont arriver et puis ils vont voir donc ce 12e homme-là présent, ça aide.
Sébastien, Nantais de cœur et de formation, la Beaujoire qui pousse, c'est une donnée prépondérante dans un match.
Ah, complètement, c'est surtout avec le
le titre de l'an dernier. Ils sont sur une bonne dynamique à ce niveau-là. Et c'est vrai que tu as une nouvelle franchise de supporters qui ont vécu un petit peu les années galères. Donc, quand il y a la Beaujoire qui est plein et que ça pousse, le rôle de 12e homme est largement joué.
Messieurs, la Ligue écoute RMC. Vous avez les compos.
Exactement.
On va commencer avec celle de Nantes.
Eh bien écoute, il y a quelques petites surprises quand même. Avec ça, c'est pas une surprise. Alban Lafont dans les buts, une défense à 3 avec Nicolas Palois, avec Andrei Giroto, avec Castelletto. On retrouvera en milieu de terrain Kirivella avec Moutoussami, comme je vous le disais, pas de surprise. Quentin Merlin sur le côté. En revanche, c'est Marcus Coco qui sera préféré à Corchia sur le côté droit. On aura bien Moses Simon et Ludovic Blas. Et à la pointe de l'attaque, il y avait une petite hésitation. Et bien finalement, c'est Mohamed qui est préféré à Guessant, l'Égyptien. Donc pour essayer d'enfin, j'ai envie de dire, mettre des buts du côté de l'UFC.
Alors la Ligue. Rapidement, on va faire juste un point sur cette compo nantaise avec Sébastien. Mostafa en pointe, c'était pas nécessairement attendu. Hein,
Mohamed,
pas...
ouais. Non, a priori on attendait plus Guessant, comme moi j'attendais plus Corchia aussi dans le couloir droit. Après, c'est aussi peut-être en fonction de ce qu'Antoine a vu dans la semaine. On sait que Moses Simon c'est titulaire indiscutable avec Blas derrière. Après à voir, il a des qualités. Moi j'aime beaucoup Guessant, même s'il a eu un match compliqué comme un petit peu toute l'équipe à Angers. Après il sait que de toute façon il pourra faire trôner au cas où ça faisait pas l'affaire en cours de match.
La composition rennaise, messieurs.
Oui, la composition lilloise.
Lilloise. T'as l'habitude avec Xavier.
Ouais, la composition. J'entends la voix de Xavier, je pense à Rennes.
Lilloise, excusez-moi.
Avec 12 joueurs, d'abord sur le site de la Ligue. C'est peut-être une technique de Paulo Fonseca. C'est corrigé et ce sera exactement le même 11 que celui victorieux face aux Auxerrois la semaine dernière. 4 buts à 1. On aura donc Léo Jardim dans les buts. Hakim Zedatka, l'une des recrues sur le côté droit. Fonte, Alexandro, lui aussi recrue en défense centrale. Diallo, André, Angel Gomez au milieu du terrain, Jonathan David sans doute sur l'aile droite à nouveau, Jonathan Bamba sur l'aile gauche et Rémi Cabella en soutien de la recrue, l'avant-centre Mohamed Bayo. On ne change pas une équipe qui gagne, une équipe qui a fait du jeu et qui s'est largement imposée au stade Pierre Mauroy à la Décathlon Arena, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut dire maintenant, la semaine dernière.
Même question pour toi Sébastien, cet adage, on ne change pas une équipe qui gagne, c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de convaincant la semaine dernière côté lillois.
Ouais, dans le contenu, avec une équipe quand même de départ qui est très offensive. Hein. Quand on regarde Gomez qui est à peu près sur la même ligne qu'André, ça fait quand même 5 joueurs à vocation offensive, sachant que Zedatka, ça monte quand même pas mal. Après, on sait que Fonseca est un entraîneur qui aime le jeu, qui aime le mouvement, aller de l'avant. C'est peut-être une aubaine pour les Nantais qui aiment jouer en contre.
Tu as peut-être lu l'interview ce matin de Paulo Fonseca.
Ouais, oui, je l'ai lu dans l'équipe. Je l'ai lu, oui. Alors, je suis d'accord sur le principe du spectacle, de jouer. Après, bon, encore une fois, dans le football, le fait de gagner des matchs, ça reste quand même le plus important.
Ouais. Et c'est pas nécessairement ce qu'il dit systématiquement dans son interview, que j'ai trouvé assez rafraîchissante personnellement.
Je peux comprendre, mais bon, s'il devait perdre 4 ou 5 matchs de suite en jouant bien. Je suis pas sûr qu'il soit l'entraîneur de Lille très au mois de septembre. Voilà.
Exact. La vérité des résultats.
Mais il est bien parti.
Messieurs Grimaud, Leroux, on vous retrouve dans une petite vingtaine de minutes pour véritablement rentrer dans cette rencontre sur le plan du jeu, sur le plan sportif, vos informations de dernière minute. On écoutera également les conférences de presse, notamment d'Antoine Camboire. Bref, on revient avec vous pour dérouler cet avant-match. On va faire un petit crochet par le Qatar pour parler de la Coupe du Monde dans un tout petit instant.
RMC, l'after, le match.
Timothée Mémon.
20h11, on est de retour dans l'after. On reviendra dans quelques instants sur ce match entre Nantes et Lille, celui qui va occuper notre soirée, le match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1, avec notamment Lille qui a fait forte impression la semaine dernière. Voir si les Lillois sont capables de réitérer cet exploit. On avait les compositions des deux équipes, on y reviendra, je vous l'ai dit, dans un instant. Avant cela, on voulait vous parler de la Coupe du Monde au Qatar. C'est dans 100 jours tout pile. Ça aurait dû être dans 101 jours précisément, mais en fait c'est dans 100 jours puisque le match d'ouverture a été avancé, décision unilatérale de la FIFA et de l'organisateur, peut-être pas forcément pratique pour ceux qui avaient prévu d'aller voir le match d'inauguration. Il y en a peut-être qui avaient prévu de prendre leur billet d'avion, d'arriver la veille, voilà. Mais bon, ça a priori c'est pas très important à leurs yeux. On est avec Nicolas Pelletier de la rédaction de RMC Sport. Salut Nico.
Salut messieurs, salut à tous.
Salut Nico. Nicolas. Tu es notre spécialiste ex-Qatar. Tu es déjà allé plusieurs fois au Qatar en amont de cet événement. La première question que j'ai envie de te poser, celle un petit peu béotienne de ceux qui se demandent à quoi ça va ressembler. À quoi faut-il s'attendre sur cette Coupe du Monde ?
Ah, ça va être une Coupe du Monde très spéciale. Déjà, quand on a une Coupe du Monde dans une seule ville, c'est jamais arrivé par le passé. Donc, on va avoir les 8 stades qui seront dans la même ville à Doha, les 1,2 million de supporters attendus sur l'ensemble du mois en lissant. Ça va être aussi dans la même ville à Doha et aussi l'ensemble des camps de base des équipes vont être à Doha dans la même ville. Donc, ça, c'est le côté le plus impressionnant de cette Coupe du Monde où tout le monde va se retrouver au même endroit alors que d'habitude, on voyage entre certaines villes comme en Russie, comme au Brésil. Et là, on va tous se retrouver au même endroit, médias, supporters et joueurs. Et donc ça va sûrement être le plus impressionnant pour l'ensemble de ceux qui vont suivre cette Coupe du Monde là-bas au Qatar.
Ça sera peut-être effectivement l'un des bons côtés de cette Coupe du Monde. Où en est-on des stades, de la construction des stades ?
Alors les 8 stades sont terminés. On rappelle que sur ces 8 stades, il y en a 7 qui possèdent la climatisation, même si l'organisation nous dit que la climatisation ne sera pas utilisée au mois de novembre parce qu'il fait entre 25 et 30 degrés, au minimum 20 degrés. Mais elle ne sera pas utilisée lors de la Coupe du Monde 2022. Ils ont installé la climatisation pour la suite, pour que les stades soient utiles sur l'ensemble de l'année. Donc c'était pour ça que cette climatisation a été installée. Les stades sont construits, les stades sont flambant neufs. On en a visité pratiquement, je crois qu'on en a visité 7 sur 8 et les stades sont flambant neufs, ils sont tous prêts. Et en revanche, il reste beaucoup de travaux au Qatar. On est retourné le 5 juillet, la semaine du 5 juillet. Il reste beaucoup de travaux au Qatar sur l'ensemble des axes secondaires. Il y a beaucoup d'axes secondaires pour accéder aux stades, aux infrastructures de la Coupe du Monde qui sont en construction. Il y a encore beaucoup de grues dans les rues de Doha. On en voit beaucoup. Des hôtels qui sont encore en construction. Par exemple, une partie de l'hôtel que va utiliser l'équipe de France qui se trouve en pleine ville était aussi en construction quand on a été le 5 juillet. Donc voilà, c'est encore en pleine métamorphose. On nous dit que ça sera terminé fin septembre, début octobre pour la Coupe du Monde qui commence maintenant le 20 novembre.
Les Bleus vont donc essuyer les plâtres au sens propre du terme avec leur hôtel. Justement, tu parlais des capacités de logement pour les supporters. On en est où ? On a entendu parler d'hôtels sur l'eau avec notamment des ferries qui seraient peut-être installés à proximité de Doha. La possibilité aussi pour certains supporters bien d'aller dans des pays voisins et de bénéficier entre guillemets, hein, ce sera payant, mais de navettes aériennes qui seront organisées.
Alors je pense que ça va être le point le plus sensible de cette Coupe du Monde parce qu'il n'y aura que 130 000 places de logement au Qatar, à Doha, pour cette Coupe du Monde. Quand on reçoit 1,2 million de supporters sur l'ensemble du mois, ça doit poser problème normalement. Alors le Qatar va beaucoup s'appuyer sur ces pays, les pays voisins, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, Dubaï, le Koweït, la Jordanie. L'ensemble des pays du Moyen-Orient vont être utilisés par le Qatar pour faire point d'appui avec des liaisons, normalement 150 liaisons aériennes par jour entre le Qatar et ses pays voisins pour que les supporters puissent venir au Qatar regarder des matchs. Et donc il y aura 130 000 places d'hébergement au Qatar.
Hors délégation, excuse-moi Nico.
Hors délégation, ouais. Oui, parce que ça comprend pas les 40 camps de base qui composent l'ensemble de la FIFA en fait. La FIFA a déjà réservé ses camps de base, donc c'est 130 000 places sans les camps de base des équipes. Donc c'est 130 000 places de logements que les supporters vont utiliser. Il y a des logements, des tentes qui seront installées dans le désert. Les bateaux, comme tu disais, Timothée, il y aura deux ou trois bateaux de croisière qui seront installés dans le port de Doha pour loger des supporters. Et même Pierre-Yves Leroux a été faire un sujet cette semaine pour RMC avec une entreprise française qui veut exporter une capsule qu'on pose sur l'eau et qui sera emmené au Qatar au mois de novembre. Et c'est carrément un petit logement sur l'eau et des supporters pourront loger à l'intérieur pour 800 euros par nuit.
Ah. Ouais, c'est quand même pas.
Ah non, même, c'est pas donné.
C'est quand même pas donné, oui. Un dernier point pour faire un tour complet sur les restrictions dont on a beaucoup entendu parler, la consommation d'alcool notamment.
Alors la consommation d'alcool, c'est très simple. La FIFA va affiner ça dans les prochaines semaines. Normalement, elle va faire une communication sur l'alcool dans les prochaines semaines, mais ça sera dans les fan zones et autour. Dans certains points autour d'un stade, il n'y aura pas normalement d'alcool à l'intérieur des stades et il n'y aura pas d'alcool sur la voie publique. Donc c'est ce qui est particulier au Qatar. Il y aura quand même l'alcool dans les hôtels, mais bon, ça c'est en temps normal, c'est aussi pareil. Et donc c'est vraiment dans les fan zones, dans les hôtels et dans certains points qui seront utilisés par la FIFA et par l'organisation. Mais il n'y aura pas d'alcool dans le stade. Quand on sait que le plus gros partenaire, l'un des plus gros partenaires de la FIFA est une marque de bière, ben ça pose problème. Elle mettra en avant sa marque de bière à taux zéro, en fait.
Ouais, effectivement, j'allais le dire. Ils ont aussi la possibilité dans leur gamme d'avoir la bière sans alcool. Et un point qui sera aussi névralgique dans l'approche de cette Coupe du Monde, Nicolas, c'est le respect des droits de l'homme dans ce pays où on a déjà vu quelques images, quelques reportages, des conditions peu enviables qui ont été réservées à ceux qui ont construit les stades, principalement des travailleurs immigrés. Est-ce que le Qatar aujourd'hui s'est mis en position de pouvoir se défendre et de pouvoir revendiquer une certaine cohérence et une certaine voilà un certain respect des droits de l'homme.
Alors sur le fond, le Qatar, oui, s'est amélioré par rapport à 2010 quand ils ont obtenu la Coupe du Monde. Le Qatar s'est amélioré sur les conditions de travail de certains travailleurs migrants qui ont construit les stades, qui construisent la ville entière en fait. La ville entière est en métamorphose totale. Donc oui, sur certains points, le Qatar s'est amélioré, mais il reste encore énormément de points à améliorer. Quand nous, on a été au mois de juillet, il y avait des travailleurs l'après-midi, en pleine chaleur, à 43, 45, 46 degrés, qui étaient là sur les bords des routes avec leur chasuble jaune et qui travaillaient, qui étaient en train de monter des murs, des parpaings et qui étaient là en pleine chaleur. Donc, sur certains points, le Qatar ne s'est pas amélioré ou n'a peut-être pas changé totalement. Donc, c'est aussi sur ça que le Qatar doit progresser, de mettre toutes les caméras au mois de novembre sur le Qatar, même si je pense qu'au mois de novembre, on ne verra plus beaucoup de travailleurs migrants, à part peut-être dans les hôtels, le service hôtelier, où il y en a beaucoup, mais on ne verra plus de travailleurs migrants sur les bords des routes. Ça aussi, ça, quand peut-être un supporter va arriver là-bas, il va dire « Ah oui, mais il n'y a pas de travailleurs migrants ». Mais oui, nous, on les a vus auparavant. Donc, c'est sur certains points, quand on voit vraiment le 5 juillet qu'un travailleur est sur le bord d'une route à 45 degrés, sur certains points, le Qatar ne s'est pas amélioré, même si d'avoir eu cette Coupe du Monde, ça a permis d'améliorer d'autres points, comme par exemple l'abolition du système de la kafala dans la plus grande partie du pays.
Merci beaucoup Nicolas pour ces éclairages. Sébastien, avant de parler du sportif, qu'est-ce que ça t'inspire, cette carte postale dépeinte par Nicolas Pelletier?
Ah, c'est vrai que je peux comprendre les sceptiques. On parlait des migrants, des conditions de travail. Malheureusement, c'est des choses qui ne devraient pas arriver. Mais c'est compliqué en fait d'organiser déjà une compétition comme la Coupe du Monde dans un état aussi petit, et surtout quand on part de zéro en termes de quasiment d'infrastructure, je parle de stades et d'hôtels, et c'est vrai que le faire en si peu de temps, on peut se poser énormément de questions. Après, au-delà de tout ça, ça reste une Coupe du Monde qui sera forcément différente de par la date, de par le fait que ça se joue dans une seule ville, et c'est peut-être le bon côté, c'est-à-dire que c'est quelque chose vraiment à faire ou à voir, de se retrouver en mode vraiment tournoi avec ce côté positif de pouvoir aller de faire les rencontres le soir. Je parle surtout des supporters, des journalistes qui auront la chance d'être sur place. Après, encore une fois, c'est quand on sera au moment du mondial qu'on se rendra compte si c'était une bonne ou une mauvaise idée. J'émets quand même certains doutes sur le fonctionnement global, et parce que bon, là on se dit, on parle de navette, on parle de dormir sur l'eau dans le désert, voilà, mais j'ai peur que les supporters, attention, je dis pas que ils doivent mal se tenir, mais on vient supporter son équipe, on sait qu'on a envie de faire la fête, J'ai peur qu'ils soient un petit peu
frustrés.
Oui. Ouais. Bah, ceux qui vont gagner, non.
Frustrés. Et non, mais je comprends. Et puis surtout, c'est ce qui va être intéressant, c'est de savoir quelle devra être l'enveloppe moyenne du supporter qui veut venir voir son équipe par rapport à d'autres coupes du monde. Je sais pas, les dernières à Rio, en Afrique
du Sud. En
fait, mon
truc, c'était de dire, on risque d'avoir plus de spectateurs que de supporters.
Mmh. Exact. Exact. On va suivre ça de près. Ça, c'était pour la partie organisationnelle. Sur le sportif, l'équipe de France est donc, elle, à 102 jours de son entrée en compétition, puisqu'elle rentrera en compétition 2 jours après le match inaugural. Est-ce que là, 100 jours, tu as la sensation que cette équipe de France a des certitudes?
Bah, déjà, bon, elle est championne du monde en titre, même s'il y a l'Euro qui est passé par là. Des certitudes, même s'il y a eu quelques fausses notes au mois de juin, mais sur le système qu'a priori va choisir Didier Deschamps, donc je parle du 3-5-2, même s'il a un petit peu changé, mais je pense que par rapport aux joueurs qu'il a à sa disposition, il a ces certitudes là le retour de Benzema aussi quelque part, même s'il est déjà revenu et que ça n'a pas été suffisant à l'Euro, mais bon, c'est un joueur aujourd'hui qui marche sur l'eau, qui est probablement le futur Ballon d'Or, et qui a certainement envie de briller pour cette Coupe du Monde, parce que par rapport à l'âge avancé qu'il a, ça sera certainement la dernière pour lui. Et puis aussi, encore une fois, par rapport aux qualités intrinsèques du groupe France, c'est-à-dire que bon, il y a un contingent de joueurs quand même incroyable et aussi de jeunes joueurs.
C'était un peu le sens de ma question, et soit des certitudes sur sur le groupe, ouais, sur le noyau dur au moins du groupe qui doit y aller.
Quand on connaît le mode de fonctionnement de Didier Deschamps, donc il ne devrait pas y avoir énormément de surprises, c'est-à-dire qu'il a certainement son noyau d'une vingtaine de joueurs. Alors il y a de moins en moins de champions du monde, même s'il y en a quand même encore pas mal. Je pense qu'il y a c'est 26 hein, qui vont. Mmh. Je pense qu'il y en a une vingtaine de sûrs. Et voilà, il s'y place là dans les 3 prochains mois, les 2 prochains mois, et notamment, je crois que c'est au mois de septembre, là, le prochain rassemblement des Bleus. Mais je pense que Didier Deschamps a déjà lui une liste qui se rapproche des 26.
Ouais, qui est quasiment faite. Tu as peut-être lu ce matin, là encore chez nos confrères de l'équipe, l'interview de Didier Deschamps. Il parle finalement assez peu de ce mondial. Il parle plus des 10 ans qu'il a passé, et c'était le thème de l'interview.
Bilan,
tout de même sur l'avenir, quand tu l'entends dire, moi je leur parle que l'humain est important, mais que je leur offre aucune garantie, c'est-à-dire que clairement il ne leur promet aucun poste. Enfin, moi en lisant ça, j'ai pensé par exemple à Paul Pogba.
Oui, non, peut-être. Enfin, on sait aussi qu'il a. Et c'est logique, hein, quand tu vis des moments aussi importants et de victoire, de complicité avec certains joueurs, c'est compliqué de se passer de certains joueurs qui sont peut-être plus que des joueurs dans son groupe. Maintenant, il a toujours eu une ligne de conduite avec son groupe dans son mode de fonctionnement, dans sa manière de faire ses listes. Qui fait qu'encore une fois, pour moi, il y aura très peu de surprises. Le fait du temps de jeu, j'ai longtemps cru jusqu'à Giroud l'an dernier, où finalement c'est au moment où il jouait le plus et qu'il n'est plus retenu en équipe de France. Et je trouve que c'est dommage de se passer d'un tel joueur, même si après je suis pas à l'intérieur et dans le comportement, le fait d'être remplaçant, peut-être que c'est plus compliqué pour Giroud. Mais je trouve ça vraiment dommage de se passer d'un joueur qui a marqué plus de 40 buts en équipe de France et qui a un profil complètement différent des autres attaquants. Voilà, c'est sinon après sur le reste, bon, il se trompe pas souvent quand même.
Si tu parlais de très peu de surprises, si tu devais toi mettre une petite pièce sur un joueur qu'on n'attend pas nécessairement, que tu vois peut-être surperformer sur ces 3-4 mois, qui puisse faire changer un petit peu la donne en sa faveur.
Tu veux dire un joueur qui a jamais été appelé ou un joueur qui
a jamais été appelé ou alors qui a été appelé ponctuellement?
Ah, si je dis Nkunku, est-ce que ça compte ou pas?
Nkunku est une bonne réponse.
Voilà, parce que bon, c'est sûr que il est international depuis peu. Il a répondu présent, par contre, quand il a été sur le terrain. Par contre, il fait pas partie des intouchables. Il a démarré fort déjà la saison. Il a déjà marqué un but. Et voilà, je pense
le fait qu'il prolonge en plus peut lui permettre de s'assurer avec Leipzig du temps de jeu et peut-être la certitude aussi d'être dans les meilleures conditions.
C'est une vraie cartouche pour Deschamps. Franchement, ouais. Pas pour moi, ça fera quasiment aucun doute qu'il sera dedans, mais j'avais pas d'autres noms là.
Bonne proposition, Nkunku. On va mettre une petite pièce sur sa participation. Merci beaucoup, Sébastien, d'avoir fait le point avec nous sur cette Coupe du Monde qui débutera dans 100 jours. Une Coupe du Monde que vous pourrez évidemment suivre sur RMC. RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. On sera là-bas. Les shows seront délocalisés pour vous faire vivre au mieux cette Coupe du Monde. Et puis, en plus des shows, il y aura évidemment vos commentateurs, à commencer par Jeannot Rettig, qui vous fera vivre tous les matchs de l'équipe de France et bien d'autres, en espérant évidemment qu'il vous emmène, Jeannot et RMC, jusqu'au bout, jusqu'en finale.
RMC, l'After Live.
Timothée Mémon.
20h30 de retour dans l'after. On fait une toute petite parenthèse Omni avant de retourner au stade de la Beaujoire pour le match entre Nantes et Lille avec Xavier Grimaud et Pierre-Yves Leroux. On va aller au championnat d'Europe de natation avec Julien, Richard et une image plus qu'insolite et en plus un résultat à la clé.
Ouais, c'est très singulier ce que l'on vient de voir. C'est Johan Ndoye-Brouard, le français, qui vient de se qualifier pour la finale du 200 mètres d'eau au championnat d'Europe à Rome. Et figurez-vous qu'il a nagé tout seul sa demi-finale. Pourquoi? Eh bien, parce que quelques minutes plus tôt, il y a un peu plus d'une heure, il lui est arrivé une mésaventure rarissime. C'est-à-dire qu'il a cassé le cale-pied qui sert au moment du départ sur le dos. Vous savez qu'en dos, on part dans l'eau, hein, on n'est pas sur un plot. Et donc, il y a des systèmes de cale-pied qui se fixent au moment du départ. Eh bien, sur la poussée, il a explosé le cale-pied. Donc, le jury a constaté que le cale-pied était cassé. C'est donc une erreur technique de matériel. Donc il a pu renager. Il a fallu attendre la fin de toutes les finales. Et il a nagé tout seul alors que la nuit est quasiment tombée ici à Rome. C'est un bassin découvert. Et il a été encouragé par tout le public de cette piscine de Rome, très connaisseur de natation. Et il a réalisé un super chrono puisque c'est le deuxième temps de l'ensemble des demi-finales. Donc il se qualifie au bout d'un scénario totalement improbable pour la finale du 200 mètres d'eau qui aura lieu demain. Pour mémoire, hein, Timothée, Johan Ndoye-Brouard, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image, mais il lui est arrivé une terrible mésaventure aux Jeux Olympiques à Tokyo. En demi-finale du 100 mètres d'eau, il avait raté son virage et il avait heurté le mur avec la tête. Après, il nous avait expliqué qu'il avait un souci aux yeux, hein, d'ailleurs il s'est fait opérer depuis. Mais voilà, ça fait deux mésaventures vraiment très très rares pour le dosiste. Ça se termine bien puisqu'il sera donc qualifié, il est qualifié pour la finale qui aura lieu demain.
Oui, alors j'ai quand même une toute petite question, Julien. Ouais. Le fait de nager seul, c'est un avantage, ouais, un inconvénient? On dit que c'est moins sensible qu'en vélo, par exemple, mais on dit qu'on peut prendre la vague d'un de ses concurrents, à condition de nager un petit peu en dessous de lui. Est-ce que ça a plus l'avantage de nager seul ou est-ce que c'était l'inverse?
Je pense que c'est plutôt quand même compliqué, une situation un peu délicate à vivre parce qu'il a fallu qu'il se reconcentre très vite, hein, après avoir connu cette mésaventure. Donc puis les systèmes de tractage un peu c'est vrai sur le sprint notamment, mais c'est un peu moins vrai sur le dos où ça se produit un peu moins. Donc je pense que c'était plutôt un désavantage dans le sens où il était seul, quoi. Il peut pas se baser sur ses adversaires. Après, le chrono qu'il fallait réaliser pour rentrer en finale, il l'avait en tête. Il le connaissait déjà et c'était largement dans ses cordes. Donc, il savait qu'il avait cette sécurité-là. Et il avait réalisé le meilleur temps, hein, des séries ce matin, notamment. Donc, c'est plutôt un combat mental, je pense, qu'il a dû livrer pour arriver à se qualifier et à attendre tout ce temps avant de replonger, de pouvoir enfin nager véritablement sa course.
Merci beaucoup Julien, il t'attend en zone mixte, je te laisse le rejoindre et merci de nous faire vivre les championnats d'Europe de natation sur RMC. Vous ne manquez rien évidemment sur RMC. On va faire un petit tour du côté du basket parce qu'il y a un match de préparation pour l'équipe de France là aussi avant l'Euro et c'est Pierre Thévenet qui va le faire vivre entre l'Italie et la France. Salut Pierre.
Bonsoir Timothée, bonsoir à tous.
On en est où?
Ça vient de démarrer à Bologne pour ce duel entre la France et l'Italie. C'est un match de prépa à l'Euro de basket qui se déroule en septembre. Les Bleus qui mènent 2-0, un panier de Yabusele, et qui doivent faire ce soir sans Frank Ntilikina, le meneur des Dallas Mavericks, qui a quitté le rassemblement sur blessure aujourd'hui. C'est une absence qui se rajoute à celle de Nando De Colo et de Nicolas Batum notamment. On a quand même une très belle équipe sur le parquet qui s'est imposée face aux Pays-Bas 89-65 dimanche dernier. Je vous donne le 5 de départ rapidement. Thomas Hurtel à la Amène, Evan Fournier et Timothée Luau Cabarro sur les postes arrière. Gerson Yabusele démarre au poste 4 et bien sûr Rudy Gobert au pivot. En face, l'Italie n'a pas battu les Bleus depuis 2003, donc en toute logique, les Français devraient s'imposer. Attention quand même à ces Italiens qui avaient posé problème aux Bleus au JO de Tokyo l'été dernier. On joue depuis un peu moins de 2 minutes dans le premier quart-temps de ce match, toujours 2-0 pour l'équipe de France face à l'Italie.
Merci beaucoup Pierre, on part à la Beaujoire pour cette rencontre, celle de ce soir, celle qui va nous occuper pendant cette After Live entre Nantes et le LOSC. On resalue messieurs Grimaud et messieurs Leroux, comment allez-vous? Est-ce que l'ambiance est toujours aussi chaude à la Beaujoire?
C'est le moins qu'on puisse dire, il fait très chaud, il fait encore 30 degrés je pense, il était annoncé 28, alors entre 28 et 30 évidemment il n'y a pas une grosse différence, mais vraiment c'est très très lourd, ça va être compliqué pour les joueurs même si le soleil évidemment ne donne plus sur la pelouse à cette heure-ci, même s'il n'est pas tout à fait couché.
Ouais, le stade qui s'est bien rempli également avec un petit moment sympa, Ludovic Blas honoré, alors non pas pour un pot d'adieu hein, on verra ça dans les prochains jours,
un petit peu
il a reçu un maillot pour son 200e match joué avec les Canaries, il s'en est fallu de peu puisque c'est potentiellement peut-être le dernier match de Ludovic Blas encore. Il faut voir parce que ça traîne pas mal les négociations avec Lille, mais on en reparlera tout à l'heure. Donc l'ambiance est belle, il fait un temps magnifique, il y a tout pour faire un bon match de foot.
Ça, messieurs, puisqu'on est sur Ludovic Blas, je voulais avoir votre sensation, vous spécialiste de ce club du FC Nantes. C'est difficile pour Ludovic Blas qui va appréhender un match face à l'équipe qui le convoite, hein, puisqu'on rappelle que Ludovic Blas pourrait partir et que s'il devait partir, ce serait très probablement pour le LOSC contre qui il joue ce soir. Avant toute chose, parce que vous ne le voyez pas, c'est de la radio, mais Sébastien Piocelle n'a pas compris le concept, donc il est très dubitatif.
Oui, il était dubitatif hier soir déjà, donc je
n'ai pas changé d'avis. Hein. T'aurais préféré qu'il ne joue pas?
Non, sur le fait que ce soit un match compliqué pour lui, quelque part. Non, je trouve que c'est au contraire. S'il devait partir, en plus là, je ne savais pas, c'est son 200e match à la Beaujoire. Contre Lille, même si c'est son futur club, il a forcément envie de faire un gros match, franchement. Et même s'il devait faire mal à son futur club, on est sur une deuxième journée de championnat. Donc derrière, il n'y a rien qui se passe. C'est pas comme une finale. Ou alors, il empêcherait le LOSC d'être champion ou gagner ou autre chose. Donc non, moi, je trouve que c'est top. Je pense qu'il est... qui doit être à l'aise. Bon, le seul truc, c'est de se blesser. Mais je trouve que c'est vraiment le type de match parfait. En plus, il y a une ambiance de folie. Ouais.
Non, mais c'est vrai. Pierre-Yves, vous aviez la question a quand même dû être étudiée à l'intérieur du club.
Oui, et je vais te le confirmer dans un instant, mais finalement c'est peut-être très personnel tout ça, ça dépend du côté psychologique du joueur, c'est pareil pour toute question dans la société, on aborde différemment voilà, ces situations-là, et peut-être que pour lui ça pose pas de problème. Et pour répondre à ta question, ça a quand même fait douter Antoine Comboiré puisqu'il est allé le voir, il lui a dit comment tu te sens, est-ce que je peux compter sur toi pour ce match-là, et il lui a répondu très clairement, je suis à 100%, vous pouvez compter sur moi, et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui titulaire. Donc
ouais, c'est quand même le vice-capitaine.
Voilà, il l'a redit d'ailleurs, Antoine Comboiré. Donc il est peut-être dans le même état d'esprit que toi, Sébastien, si ça t'était arrivé, pas de souci. Moi, je suis jaune et vert ce soir et je suis prêt à fond, quoi, effectivement. Mais la question s'est posée, effectivement.
Et pour ajouter quelque chose, nos confrères, là, ça vient de sortir, nos confrères d'Europa ont réussi à interviewer Valdemar Quitta, qui dit, je le cite, alors bon, Valdemar Quitta, il faut décrypter parfois ce qu'il dit, nous n'avons pas de discussion pour le départ de Ludovic Blas. Voilà, donc c'est un petit peu la tendance sur le fait, Pierre-Yves, qu'il n'y ait pas d'offre concrète sur le bureau du FC Nantes pour le moment.
Écoutez,
des discussions informelles.
Écoutez Antoine Comboiré sur le cas Ludovic Blas qui pourrait, on l'a dit, potentiellement s'envoler pour Lille et qui affronte ce soir avec les Canaries, justement les Dogues Lillois.
On est super content de retrouver la Beaujoire, super content de retrouver notre public.
Ce
qui serait beau, c'est de sortir donc de cette confrontation avec une victoire pour qu'enfin on puisse lancer la saison. Si on veut faire un bon parcours, ça passe par de bonnes performances à domicile.
Voilà, c'est pas ce son-là qu'on voulait vous faire écouter, c'est celui d'Antoine Comboiré sur Ludovic Blas. Ça, c'est Antoine Comboiré, ravi de retrouver la Beaujoire qui sera incandescente ce soir avec un record de supporters. On va voir si on retrouve le son en question sur Ludovic Blas. Messieurs, j'aimerais continuer en tout cas de parler de cette équipe de Nantes. C'est une équipe qui a des difficultés offensives, c'était le cas lors des matchs de préparation, ils n'ont pas marqué lors du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain certes, ils n'ont pas marqué la semaine dernière contre Angers. Il va falloir trouver des solutions et Antoine Comboiré fait un choix avec la titularisation de Mostafa Mohamed.
Oui, voilà, il a deux possibilités offensives dans l'axe avec Guessant et Mohamed. Aujourd'hui, il fait le choix de Mohamed, mais ce qui est certain, c'est que on peut revenir sur la Kolo Muani peut-être dépendance, quoi. C'était un joueur vraiment très important l'année dernière. On le savait, un joueur qui est monté en plus en puissance tout au long de la saison, qui marque 12 buts la saison dernière en Ligue 1. Donc, c'est pas facile de remplacer ce joueur-là. Et pour l'instant, dans le mercato, voilà, il n'y a pas de solution autre. C'est compliqué offensivement et il va falloir très vite régler ce problème-là. Il en convient, Antoine Comboiré. Il y a un problème offensif, mais c'est aussi lié au bloc qui est lui-même pas assez compact. C'est ce qui est revenu après le match d'Angers. Avec un bloc plus compact, c'est plus facile de se jeter vers l'avant, qui est quand même une des grandes forces du FC Nantes, de vite réagir, et on le disait tout à l'heure, d'être capable de marquer sur un contre. Mais pour ça, il faut avoir un vrai bloc. Pour l'instant, il y a des automatismes qui ne se trouvent pas forcément.
Juste par rapport à l'équipe qui a joué contre Angers, donc là on parle du bloc, donc c'était une équipe, mis à part Sissoko, c'était que des joueurs qui étaient là l'an dernier, qui étaient quasiment titulaire. Alors bien sûr, offensivement, quand tu perds Kolo Muani, c'est très compliqué. Mais après, je pense qu'il faut qu'ils se reprennent, parce qu'ils ont fait quand même ils ont fait des bonnes choses l'an dernier. C'est vrai qu'Angers, si on regarde bien, bon, moi ça m'a pas trop inquiété, parce que bon, ils ont fait une première mi-temps très très moyenne, deuxième mi-temps où ils étaient un petit peu mieux. Ils sont capables d'enflammer n'importe quel match. Après, c'est sûr que quand il y aura les occasions, il faudra les marquer. Mais c'est déjà, comme vous disiez, il faut qu'ils retrouvent cette assise-là, cette confiance-là. Et on fait confiance à des joueurs quand même qui connaissent le système et qui connaissent le mode de fonctionnement d'Antoine Comboiré.
Et on a posé la question la semaine dernière à Antoine Comboiré. Est-ce que ces joueurs ont aussi faim que la saison dernière? Parce que c'est vrai qu'ils sont presque repus à l'échelle du FC Nantes avec la saison qu'ils ont fait, notamment les derniers mois. Et Antoine Comboiré, ne cachez pas, c'est une question sur laquelle on est très vigilant. Voilà ce qu'il a dit. Seb, toi qui est l'ancien joueur pro, est-ce que parfois c'est dur de redémarrer quand on a fait une belle saison, de retrouver la motivation en se disant que ce sera déjà difficile de faire aussi bien que la saison d'avant?
Oui, ça peut rentrer en ligne de compte. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a aussi des contrats qui ont été revalorisés. C'est un peu, alors c'est pas un titre de champion de France, mais souvent ça arrive après un titre, c'est-à-dire que il y a la satisfaction du travail bien fait. Ils ont remis le public dans leur poche, comme on disait, ça fait des années que c'est très compliqué hein, avec les supporters et la direction. Donc ils ont vécu un super moment. Et c'est vrai que c'est pas forcément évident de se remettre dedans, d'être dans la continuité avec des joueurs qui connaissent, comme tu disais, le mode de fonctionnement, le système d'Antoine Comboiré, c'est bien. Mais ramener un peu de fraîcheur aussi, c'est bien aussi. Donc il faut qu'il trouve un petit peu l'amalgame de tout ça.
Il se donne 4-5 matchs, il l'a dit très clairement.
Ah bah, pour les 4-5 matchs qu'il y a, il vaut mieux.
Ouais, 4-5 matchs, mais il le dit, je fais toujours ça finalement, chaque saison, avec quelle que soit l'équipe.
Mais
il faut
4-5
matchs pour me rendre compte. Ah bah oui, là, effectivement.
Toulouse, Strasbourg, Marseille, de Toulouse, Strasbourg et
Paris,
et
l'OM. Ouais.
Messieurs, ouais. Guillaume nous a appelé au 32-16, supporter du FC Nantes. Salut Guillaume, comment ça va?
Bonsoir tout le monde, ça va bien.
Excité, prêt à suivre cette rencontre sur RMC?
Évidemment, je vais la regarder chez moi tranquillement.
Très bien. Guillaume, cette avant-saison, elle t'a peut-être créé quelques doutes après une très belle saison la saison dernière. On a vu une préparation un petit peu ratée, en tout cas un petit peu médiocre. Deux premiers matchs pas forcément convaincants, même s'il y en avait un contre le Paris Saint-Germain. Quels sont tes motifs d'espoir?
Bah c'est un peu compliqué. Là je vais rebondir sur ce que Sébastien pour motivation par rapport à la saison dernière. Moi j'ai quelque chose qui me vient en tête tout de suite, c'est que
On te perd un petit peu, Guillaume.
Est-ce que là c'est mieux?
Vas-y, ouais. Essaye.
Donc oui, je disais par rapport à ce que Sébastien Piotel disait, au niveau des doutes de cette saison, pour rebondir un petit peu. Et moi, je trouve que pour les remotiver, il aurait fallu amener de la concurrence. Donc là, aujourd'hui, on a recruté à part Sissoko et puis les attaquants, mais
Evan Guessant, Mostafa Mohamed.
Ouais, mais sauf que c'est pour remplacer Kolo Muani. Donc la concurrence, il y a juste Sissoko au milieu aujourd'hui. Derrière, les joueurs sont tranquilles, sont sûrs d'être titulaires. On a une faiblesse au niveau des latéraux, excepté Merlin. Tous les autres, c'est plutôt faible au niveau de Fabio, Corchia et Traoré. C'est très,
ouais,
très faible.
Coco, ouais, c'est vrai qu'il y a pas, il y en a pas qui se détache.
Voilà,
hein, ouais.
Voilà, quand on voit que c'est Coco, notre titulaire à droite. Voilà, lui qui a toujours joué ailier droit à Guingamp et puis chez nous au début. Ouais, voilà, on voit que c'est plutôt faible. Donc moi, je pense que déjà, vu qu'il n'y a pas de concurrence, ça permet pas forcément aux joueurs d'être motivés.
Ouais, Guillaume, déjà, ils ont du mal à remplacer certains joueurs, et notamment... Alors imagine acheter d'autres joueurs. On connaît la problématique du FC Nantes au niveau du recrutement depuis des années. Il faut que tout le monde soit d'accord autour d'une table pour qu'un joueur se fasse à Nantes. Donc quand je dis ça, il y a forcément des intervenants à chaque fois. Et c'est vrai, là je te rejoins, c'est que au-delà de tout ça, c'est que au niveau quantitatif et qualitatif, c'est pas comme si le FC Nantes allait jouer seulement la Ligue 1. C'est ça qui fait un peu flipper, quoi. C'est-à-dire que tu vas avoir la Coupe d'Europe avec des matchs toutes les semaines. Là, ça va être un calendrier hors norme jusqu'à la Coupe du Monde. Et c'est pour ça que je parlais du calendrier, moi, du début de saison en Ligue 1. Attention, alors je veux pas être trop alarmiste. Hein. On sait que c'est, comme je disais tout à l'heure, il y a un groupe qui se connaît bien. Ça, on va dire, c'est les points positifs. Ils ont vécu une super chose ensemble, donc ils peuvent se dire les choses plus facilement. Et ils sont capables. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de qualité, les gars, ils sont quasiment sûrs de jouer. Ils vont peut-être se bouger un petit peu pour un entraînement. Donc, ouais, c'est dangereux.
Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été avec nous, de nous avoir appelé au 32-16. On te souhaite une belle soirée, un bon match. Et puis, tu nous rappelles dans le débrief tout à l'heure si Nantes a gagné.
Avec plaisir. Allez. Bon, même si Nantes a perdu, je veux bien intervenir.
Mais ils vont pas perdre, t'inquiète pas.
On te le souhaite. Allez. À tout à l'heure, peut-être, Guillaume. Nous, on revient dans un tout petit instant. On fait une toute petite pause et on va parler de l'adversaire des Nantais, les Lillois.
RMC, l'After Live.
Timothée Mémon.
20h49, on a une dizaine de minutes du match d'ouverture de la deuxième journée de Ligue 1 entre le FC Nantes et Lille. Il y aura demain plusieurs matchs avec l'AS Monaco face au Stade Rennais, le Paris Saint-Germain face à Montpellier notamment. Et puis vous le savez, le multiplex, ce sera dimanche avec un match qui a été reporté, le match entre le FC Lorient et l'Olympique Lyonnais à cause de l'état de la pelouse à Lorient suite au festival interceltique qui a abîmé la
pelouse. Mon amateur, franchement, il pouvait pas prévoir.
Tout à l'heure dans l'after entre 23h et minuit. On fait un saut au basket, match préparatoire à l'Euro entre l'Italie et la France avec Pierre Thévenet.
Et il reste 2 minutes dans le premier quart-temps et c'est beaucoup moins facile que prévu. Les Français sont menés 15 à 9 par l'Italie, 17 à 9 à l'instant même. Les Italiens qui font la course en tête, ils arrosent à 3 points, déjà 10 tirs pris de loin. Les Bleus sont brouillons, ils se battent pour rester au contact. 17 pour l'Italie, 9 pour la France. Il reste 1 minute 45 à jouer dans le premier quart-temps.
Merci beaucoup Pierre. Tu n'hésite pas évidemment s'il se passe quelque chose de majeur dans cette rencontre. Retour à la Beaujoire pour parler un petit peu des Lillois avec vous messieurs et notamment avec toi Xavier. Cette équipe de Lille qui a fait une très forte impression la semaine dernière, c'est peut-être même l'équipe qui a tapé dans l'œil un petit peu des observateurs de la Ligue 1 si l'on met de côté le Paris Saint-Germain. Des Lillois qui veulent rester, on va dire, sur cette dynamique. La preuve en est cette composition identique à celle de la semaine dernière.
Oui, exactement. C'est une équipe qu'on avait envie de scruter, peut-être plus que d'autres, de par l'arrivée du coach, hein, Paulo Fonseca, le Portugais, qui a quand même un joli CV. Il est passé dans des grands clubs, hein, le FC Porto, le Shakhtar Donetsk, l'AS Rome. Hakim Zedatka, qui était en conférence de presse avec Jean Baumel, le disait d'ailleurs. Hein, c'est un coach qui a beaucoup d'expérience du haut niveau et qui, déjà, sur les détails du jeu, a peaufiné cette équipe de Lille. On l'a vu, ça a tout de suite bien pris. C'est un coach qui est aussi ambitieux, qui aime faire du jeu et évidemment gagner largement les matchs comme tout le monde, mais il l'a fait face à Auxerre. Auxerre a marqué en fin de match et vous allez voir, il est resté dans l'exigence parce qu'il n'a pas aimé cette fin de match. On peut écouter le coach portugais.
Je pense que ce n'est pas une question de mentalité. C'est normal quand on mène 4 à 0. Nous devons garder la même ambition, la même intensité. Les joueurs n'ont pas trouvé la meilleure façon de gérer cette fin de match. Je veux qu'on continue à dominer, mais nous n'avons pas réussi à le faire. Même pour défendre, je veux avoir le ballon. Si on l'a, alors on n'a pas besoin de défendre.
Seb, ce Paulo Fonseca, il a un discours déterministe presque sur la façon dont il veut voir jouer son équipe. Il y a quelques créateurs, on a vu que Rémi Cabella était bien en jambes la semaine dernière, Jonathan David bien à l'aise dans ce rôle un petit peu nouveau sur le côté droit. Elle te met l'eau à la bouche cette équipe de Lille pour cette saison à venir.
Ouais, c'est vrai qu'avec Justin Gourvenec, on était resté quasiment dans du copier-coller de l'ère Christophe Galtier. Pour le coup, là, lui, au-delà de l'animation, il change complètement de système. C'est plutôt un 4-2-3-1 avec un Jonathan David qui occupe le couloir droit, même s'il va rentrer beaucoup à l'intérieur. Et c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, par rapport au 11 qui est titulaire ce soir, si on compte Gomez, c'est quand même une équipe assez offensive. Et puis, il aime avoir le ballon, comme il dit. Hein, quand on a le ballon, au moins, on ne court pas après, on fait courir l'adversaire. Ça sera certainement une équipe joueuse. Par contre, qui dit équipe joueuse, avec les latéraux qui montent pas mal, ça laisse pas mal d'espace. Mais c'est vrai que sur la prestation de la première journée, contre une très faible équipe d'Auxerre, quand même, on a vu du bon LOSC.
Et on va essayer de gagner un petit peu d'argent sur cette rencontre.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Johan Bredov nous a rejoint. Salut Johan.
Bonsoir messieurs, bonsoir à tous.
Quelles sont les bonnes, quelles sont les grosses cotes?
Et bah, déjà la victoire lilloise à 2,35, ça peut être très intéressant, ça va pas te plaire Seb évidemment. 3,40 le match nul, 3,10 la victoire de Nantes. Comme je vous l'ai dit, je me dirigerai plutôt vers un succès lillois à l'extérieur. 14 matchs sans défaite contre Nantes, 4 victoires lors des 4 derniers déplacements à la Beaujoire. Donc voilà, 2,35, pourquoi pas avec le but de Jonathan David. Et la cote monte à 3,70. Mais Seb, t'as fait le choix du cœur hein.
Oui, alors au choix du cœur, parce qu'on sait que c'est un peu leur bête noire, hein, le LOSC.
Ah oui, un peu.
Nantes. Après Lille, ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas gagné leurs deux premiers matchs de début de saison. Donc je dirais Nantes qui ne perd pas et les deux équipes qui marquent.
Ça, c'est 2,25, c'est intéressant.
Et je rajoute Blas buteur.
2,55 et le but de Ludovic Blas, évidemment. Hein, 3,75, ça aussi, c'est une belle cote.
En cumulé, ça doit être pas mal.
Ouais, je pense.
Winamax, les meilleures cotes.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Jouer comporte les risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Week-end chargé sur les routes de France. On fait un point sur vos conditions de circulation dans un tout petit instant. Ce sera juste après cette petite pause. À tout de suite.